C'est un plaisir d'accueillir à nouveau Quinn Slovian dans le programme. Quinn Léaudian, professeur d'histoire internationale à l'Université de Boston. Je veux dire, je suppose que j'ajouterai une chose, que vous pourrez peut-être utiliser ou non, mais si vous pensez que, d'une manière fondamentale, les êtres humains sont câblés et ne peuvent pas être améliorés ou changés de manière significative, alors de nombreux programmes de la grande société, de l'amélioration, de l'éducation et des droits civiques en général, de la discrimination positive, deviennent pire qu'infructueux et pire que des efforts impuissants pour créer un monde différent. Ce ne sont en fait que des stratagèmes de bureaucrates pour se créer des emplois et pour que des groupes moins compétents et des groupes minoritaires tentent de s'emparer des biens et des richesses des secteurs les plus compétents et les plus performants de la population. Voilà, en deux phrases, les 15 prochaines minutes de votre vie. Si vous voulez partir maintenant, vous savez déjà comment des types comme Trump et Elon, mais aussi leurs laquais des médias comme Ben Shapiro, Joe Rogan, Steve Bannon, ont pris le pouvoir au cours de la dernière décennie. C'est ainsi qu'ils ont protégé le néolibéralisme. En qualifiant le progressisme de conspiration et en utilisant la science raciale, ils ont prétendu être des ennemis populistes de l'élite. Mais une fois au pouvoir, ils ont démantelé le dernier obstacle au néolibéralisme dont Reagan et Clinton n'ont pas pu se débarrasser. Ils ne sont pas contre le système. Ils en sont les plus grands atouts. D'accord, au revoir. Très bien. Si vous voulez rester, nous pouvons vraiment le faire, n'est-ce pas? Parce que la façon dont nous en sommes arrivés là est insensée. Ces types ont gagné en ramenant l'eugénisme et le néolibéralisme au bord de la mort. Ce ne sont pas des choses populaires. Mais voici comment ils ont fait. Salut les amis, ici JT du futur. Je voulais juste prendre une seconde pour faire une publicité éhontée pour Mince TV. À la fois parce que c'est génial et parce qu'être un communiste corrompu sur YouTube ressemble de plus en plus à une proposition perdante. Si vous ne connaissez pas Mince, c'est une coopérative appartenant à des travailleurs et un service de streaming explicitement anticapitaliste. Vous pouvez y trouver de tout, de mes vidéos à des séries originales comme Mince Morning News en passant par des documentaires de longue durée comme Gaza Fights for Freedom d'Abby Martin, et de nouveaux contenus incroyables sont ajoutés chaque jour. J'ai travaillé en coulisses pour aider à faire de même un endroit qui soit à la fois intéressant pour les spectateurs et qui offre une sécurité financière aux créateurs socialistes dans un paysage politique de plus en plus réactionnaire. Chaque créateur sur la plateforme dispose d'un lien unique qui, lorsqu'une personne s'inscrit en utilisant ce lien, bénéficie directement de l'abonnement. J'ai mis le mien dans la description ci-dessous, mais si vous appréciez vraiment le travail d'un autre créateur, assurez-vous d'utiliser son lien à la place. Chez Mince, nous nous efforçons tous de construire un écosystème médiatique alternatif qui se consacre idéologiquement au partage de points de vue de gauche. Avec Mince TV, nous pouvons dire les choses telles qu'elles sont. Pas de coup bas, pas de détour pour tromper l'œil omniscient de l'algorithme. Mince nous donne la liberté de créer le contenu que nous voulons vraiment créer et de dire ce que nous voulons vraiment dire. Il existe même un forum communautaire où les créateurs peuvent interagir entre eux et avec leurs fans directement sur la plateforme. Pour vous remercier d'avoir regardé notre chaîne, si vous vous inscrivez via notre lien ou via celui d'autres créateurs si vous préférez, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur votre premier mois. Ou, pour une offre encore plus intéressante, vous pouvez opter pour le forfait annuel et bénéficier de 20% de réduction sur toute l'année. Une année complète d'abonnement à Mince TV vous coûtera moins de 90$. Ce qui équivaut au prix d'un seul repas DoorDash de nos jours. Chaque personne qui s'inscrit en utilisant le lien d'un créateur contribue directement à la stabilité financière de cette chaîne et à l'ensemble du projet de médias coopératifs. Rien de tout cela ne serait possible sans la générosité de téléspectateurs comme vous. Mince TV est entièrement financé par des fonds locaux et le sera toujours. Donc, si vous souhaitez nous aider à soutenir notre travail, pensez à vous inscrire à Mince TV en utilisant le lien ci-dessous. Cela aide vraiment l'équipe de Second Saut et des dizaines de créateurs socialistes de principe sur la plateforme. Merci pour votre soutien. Très bien. Revenons à la vidéo. Qu'ils vous traitent de raciste. Qu'ils vous traitent de xénophobe.
Qu'ils vous traitent de niviste. Portez-le
comme un insigne d'honneur. C'est la courbe en cloche. Vous en avez déjà entendu parler. C'est le livre de Charles Murray et Richard Ehrenstein sur le QI qui est devenu populaire dans les années 90, entre autres, pour avoir affirmé que les différentes races ont une intelligence moyenne différente. C'est un livre qui donne à ses lecteurs une feuille de route scientifique, entre guillemets, pour construire une hiérarchie raciale, ce qui est, et je tiens à préciser que je n'exagère en aucune façon, forme ou forme, une pure connerie nazie. C'est un comportement nazi littéral que d'essayer de démontrer scientifiquement que le sang d'une race est supérieur à celui d'une autre.
Vous savez, quand ils laissent entrer dans notre pays, je crois, 15 ou 16 millions de personnes, quand ils font ça, nous avons beaucoup de travail à faire. Ils empoisonnent le sang de notre pays. C'est ce qu'ils ont fait.
Mais nous y reviendrons dans une minute. Si vous avez déjà entendu des gens comme Ben Shapiro, Tucker Carlson, Joe Rogan, Steve Bannon, peu importe, parler du QI ou de la façon dont certaines cultures sont plus violentes ou moins intelligentes, voire parfois plus intelligentes que les Blancs, l'origine moderne de ces arguments est presque certainement la courbe en cloche. La courbe en cloche, la courbe en cloche, la
courbe en cloche. Cela fait un certain temps qu'un livre aussi controversé n'a pas été publié. Ils affirment qu'environ 60% de l'intelligence est héréditaire. Si je comprends bien leur argument, je ne suis pas d'accord.
La prémisse de l'auteur renforce la théorie eugéniste racialiste de l'infériorité africaine. Lorsque la courbe en cloche est sortie, elle était dans toutes les librairies, dans tous les magazines. Et elle a rendu admissible, voire inévitable, pour des personnes raisonnables d'avoir des discussions politiques ouvertes sur l'eugénisme, de simplement poser des questions sur l'idée que la société devrait supprimer la reproduction des personnes inférieures et promouvoir la reproduction des personnes supérieures. La première étape de tout cela étant de déterminer qui est supérieur. Et pour ce faire, le livre a utilisé des tests de QI pour affirmer que certains groupes raciaux sont plus intelligents que d'autres en moyenne. Et il a présenté ces données comme un fait scientifique indiscutable. Bien que les auteurs aient un peu tergiversé et qu'ils affirment ne pas savoir exactement si c'est principalement la nature ou l'éducation qui est responsable des différences de QI, leur conclusion montre qu'ils pensent qu'il existe une inégalité raciale fondamentale en matière d'intelligence que l'on peut observer directement à travers des tests. Cette différence est quelque chose qu'ils pensent pouvoir masquer temporairement, mais jamais vraiment résoudre. En haut de la hiérarchie, le livre place les Asiatiques de l'Est et les Juifs ashkénazes juste au-dessus des Blancs. Et puis les autres Asiatiques, Hispaniques et Noirs sont en bas. Et vous pouvez déjà imaginer à quel point ce livre pourrait être utile à tout un tas de débatteurs d'extrême droite. Ils disent que si nous sommes racistes, pourquoi plaçons-nous les autres au-dessus des Blancs? Nous ne sommes pas des suprémacistes blancs. C'est donc une façon un peu effrontée pour eux d'essayer de renverser la vapeur sur leurs détracteurs. Mais je pense que cela exprime également deux autres points de vue plus significatifs. L'une d'elles est que cela permet à la science du QI de soutenir ce qu'on appelle l'ethnodifférentialisme. Ainsi, la nouvelle droite en général a souvent ce principe d'un espace pour chaque race, entre guillemets. Donc l'idée qu'il est en fait acceptable qu'il y ait la Hongrie pour les Hongrois, l'Afrique pour les Africains, le Japon pour les Japonais, et que c'est en fait le monde idéal pour une position internationaliste réactionnaire. Donc le fait que les Asiatiques de l'Est aient un QI plus élevé n'est pas une menace si l'on pense que les Asiatiques de l'Est resteront en Asie de l'Est et ne seront pas, vous savez, des concurrents actifs dans le futur majoritairement blanc que vous imaginez. Mais cela nous ramène à nos jours. Avant d'y arriver, je tiens à préciser que The Bell Curve est un mauvais livre, et pas seulement pour sa conclusion. Il y a une douzaine de sauts de logique et de problèmes méthodologiques derrière lui et le genre de science raciale qu'il défend. Cette vidéo ne sera pas une démystification approfondie puisque nous nous concentrons sur les conséquences politiques de cette rhétorique, pas sur le livre en particulier. Mais il suffit de dire que l'idée selon laquelle le QI, la culture ethnique ou la manière dont les conservateurs qualifient ces choses aujourd'hui pourrait vous donner une explication scientifique ou une justification de l'infériorité raciale est une connerie. J'ai laissé quelques liens dans la description pour ceux d'entre vous qui veulent voir la démystification complète par eux-mêmes. Mais juste pour être clair, il n'existe pas de race supérieure. Mais revenons à notre sujet. Ces types, des types comme Ben Shapiro, Tucker Carlson, Lex Fridman, un groupe de personnes dans l'écosystème médiatique d'extrême droite ont soit donné une tribune à Murray, soit fait indirectement référence à son travail, et cela a eu des conséquences. Des personnes explicitement pro-eugénistes font partie du personnel du gouvernement. Mais pour que le travail de Murray devienne aussi populaire, les scientifiques spécialistes des questions raciales ont d'abord dû former des alliances avec d'autres personnes influentes, comme les néolibéraux, dont nous avons déjà parlé ici. Et rien ne rend cette alliance plus claire que celle-ci. Charles Murray, Friedrich A. Hayek, chair emeritus à l'American Enterprise Institute. Comment un scientifique spécialiste des questions raciales peut-il obtenir le titre de connard en chef, du nom du penseur néolibéral le plus influent d'un groupe de réflexion sur le néolibéralisme? Eh bien, vous vous souvenez des années 90? Les années 90 étaient censées être un tour de victoire pour le néolibéralisme. Le capitalisme mondial avait gagné. Le plus grand projet communiste au monde venait d'être dissous. Et le FMI, la Banque mondiale et les États-Unis battaient tous le tambour du libre-échange et de la croissance infinie sur tous les continents. Si vous étiez l'un d'eux, le monde venait de vous donner raison. Vous pouviez vous lever et regarder la société s'effondrer autour de moins en moins de méga-monopoles, attendant patiemment votre utopie de ruissellement chimique sans bureaucratie. Du moins, c'est ce que vous penseriez. Ils doivent se sentir, vous savez, remplis d'optimisme et de victoire. Mais en fait, si vous lisez leurs articles, les discours qu'ils prononcent dans les années 90, c'est tout le contraire. Ils craignent d'avoir perdu la guerre froide. Après avoir passé 40 ans à construire un monde pour le libre-échange mondial, à mettre en place les institutions qui le protégeraient et le forceraient à s'ouvrir, à porter les néolibéraux au pouvoir, à conseiller les présidents, ces types pensaient que cela ne fonctionnerait pas. Je cite, « Si nous avions demain les forces politiques nécessaires pour démanteler l'État-providence, et si nous nous y mettions, nous serions confrontés à une réalité effrayante mais inévitable. Derrière l'État-providence, il n'y a presque rien. » La promesse floue et séduisante que le secteur privé et le marché libre combleraient instantanément le vide, comme Athéna née de Zeus, remplaçant ainsi l'État-providence et rendant le nouvel ordre acceptable pour nos citoyens, est une pure chimère. Ils ont gagné. Et pourtant, ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire. Les gens aimaient le New Deal. La sécurité sociale et Medicaid étaient de bonnes choses. Et s'ils commençaient à les démanteler, tout le monde verrait immédiatement à quel point le projet néolibéral était en réalité destructeur. Ils ont donc fait marche arrière. L'actuel bureau de gestion du budget, RUSVA, décrit le gouvernement américain comme étant dépassé par les radicaux marxistes de gauche. Ils craignent et ils le disent directement que la menace rouge soit désormais devenue verte. Les écologistes ont repris là où les marxistes s'étaient arrêtés. Les féministes, les militants des droits des homosexuels, les antiracistes, tous étaient désormais les nouveaux ennemis. Et ils avaient, c'est le plus important, pris le contrôle de cette strate d'organisation qui domine la nation. Ils pensent que l'élite éveillée, comme on l'appellera plus tard, a pris le contrôle de la structure de gouvernance mondiale. Et dans l'esprit de la nouvelle droite, ce sont ces personnes qui sont le véritable ennemi. Les conservateurs pensaient que même si le socialisme n'était probablement plus populaire après des années de guerre froide, des choses comme les plans d'épargne-retraite, les droits civiques et l'environnementalisme rendaient toujours viable l'idée d'un gouvernement réellement utile sur le plan politique. Pour le rendre impopulaire, ils se sont alors accrochés aux deux récits de leur époque. Premièrement, le gouvernement s'agrandit, ce qui signifie qu'il y a de riches bureaucrates et des sympathisants socialistes diplômés de l'université. Deuxièmement, de nouvelles données scientifiques montrent que tous ces efforts pour rendre la société meilleure et plus égalitaire sont peut-être complètement erronés, car certaines personnes sont tout simplement inférieures et méritent donc de le rester. Cela signifie que la guerre contre les pauvres que les néolibéraux voulaient mener n'avait plus besoin d'être justifiée par l'efficacité ou la théorie économique, car grâce à des travaux comme la courbe en cloche, tout ce qui n'était pas une prise de contrôle totale par les entreprises était essentiellement un affront contre la nature. Les gens sont fondamentalement inégaux. Laissez le marché libre décider ou vous êtes dans la poche de l'élite éveillée. Et pour être clair, ce n'est tout simplement pas vrai. Dépenser de l'argent dans des programmes qui maintiennent les gens hors de la pauvreté, leur donnant un meilleur accès à la nourriture, au logement, au travail, au transport, à l'éducation. Ces choses ne sont pas un affront contre la nature, ni une subvention à la bêtise. L'intelligence est relativement égale d'une personne à l'autre. Et les choses qui vous rendent la vie plus difficile, comme ne pas avoir accès à ces choses, explique bien mieux pourquoi vos résultats aux tests peuvent être faibles. La meilleure chose pour la société n'est pas de laisser un groupe de personnes se débrouiller seules. Il s'agit de donner à chacun le niveau de vie le plus élevé possible. C'est ce que la civilisation est censée être. Mais ce n'est tout simplement pas le projet néolibéral ou scientifique de la race. Leur projet commence par trouver des moyens de réduire les dépenses publiques de manière à aider les 1% les plus riches et se termine par s'assurer que les premières victimes de ce projet soient les minorités. Et lorsque vous supprimez tout et ne laissez que la nature, et que la nature s'avère être le chaos des marchés mondiaux, à quoi les gens peuvent-ils s'accrocher? Il s'avère que ce n'est pas grand-chose. Les temps sont donc durs, ils
sont
instables. Que faites-vous? Eh bien, sur les marchés financiers, vous achetez des dollars américains ou de l'or. Vous faites appel à quelque chose qui semble avoir une valeur naturelle ou quasi naturelle. L'or, je suis riche. Je suis, et je pense que la blancheur, je pense que le territoire des États-Unis, le territoire de l'Allemagne ou de l'Autriche dans ces cas-là se sont offerts comme une sorte de roc de stabilité en période d'incertitude. L'attrait de Trump et des États-Unis a été similaire. Je suis avec vous. Je me battrai pour vous et je gagnerai pour vous. Vous savez, vous ressentez la pression des hausses de prix quotidiennes et, vous savez, l'insécurité des emplois. Alors, au lieu de dire « et construisons l'économie des soins et facilitons l'organisation du lieu de travail pour que vous ayez moins d'incertitudes », maintenant, au lieu de cela, il dit que nous allons créer un nouveau système dans lequel il y a des loyalistes qui sont à l'intérieur et qui vont obtenir une partie du butin, puis il y a d'autres personnes que nous allons punir et dont nous allons extraire ce butin. Il voulait accélérer les processus de mondialisation néolibérale. La destruction de l'État-providence n'allait pas réellement aider les personnes souffrant du néolibéralisme. De toute évidence, la discrimination positive, les droits civiques, les dépenses sociales n'ont jamais été la raison pour laquelle la vie des gens s'est détériorée en premier lieu. Donc, pour combler le fossé, la nationalité, une notion fortement assimilée à la culture et à l'ethnicité des personnes supérieures, est devenue la solution qui a fonctionné à la fois pour les néolibéraux et les scientifiques de la race dans leur coalition.
Nous sommes désormais dans le domaine de la maximisation de la valeur de la citoyenneté.
Vous avez une carte verte, c'est une carte dorée. Nous allons fixer un prix d'environ 5 milliards de dollars sur cette carte, ce qui vous donnera les privilèges de la carte verte, tout en laissant. Entendre que l'américanité est en soi un atout qui peut être monétisé et auquel on peut donner une valeur monétaire. Et une partie de l'attrait de l'extrême droite ou de la droite en général aujourd'hui, c'est qu'elle offre un certain nombre de choses comme des valeurs refuges dans les moments d'incertitude. Nous y voilà donc. Trump a gagné grâce à un programme qui non seulement prétend être destiné à la classe ouvrière dans son esprit, tout en rendant activement la vie de la classe ouvrière plus insupportable, mais qui est basé sur l'idée irrémédiable que certaines cultures, ethnies et races sont supérieures à d'autres et peuvent exclure quiconque n'est pas assimilé ou contrôlable. Pour essayer de faire passer cette pilule assez terrible un peu plus facilement, ils agissent désormais comme si la citoyenneté allait vous sauver du reste de l'horreur à venir. Mais si les déportations et les dénaturalisations accidentelles de ces derniers mois nous ont montré quelque chose, c'est qu'il ne s'agit que d'une autre feuille de vigne. L'appartenance américaine n'est guère plus qu'une vulgarité aveugle pour Trump et l'idéal américain blanc fictif. Que cela vous protège ou non des hausses de prix, des détentions et des coupes dans les aides sociales n'est pas une question. Cela ne le fera pas. Si vous avez aimé cet épisode, jetez un œil au livre de Queen, HX Bastards. Queen a eu la gentillesse de nous y donner accès en avant-première et de nous laisser l'interviewer. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les conservateurs sont si obsédés par l'achat d'or, le dernier tiers du livre est consacré à cela, et je ne saurais trop vous le recommander. Rendez-vous dans 2 semaines.